pays du droit de l'homme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer en toute légalité. Ce que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée. J'en ai perdu les années, mais j'ai conservé.
Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonjour Joy.
Bonjour Raphaël.
Je suis Raphaël Kaufmann, juriste en droit des nouvelles technologies, fondateur de Forme Légale et producteur de l'émission Joy au pays des droits de l'homme, produite en collaboration avec Radio Judaïca. J'en profite pour remercier toute l'équipe, Valérie, Sybille, Lucas et Thomas. D'ordinaire, Joy, tu reçois des avocats ou des juristes spécialisés en droit de l'homme ou dans la défense des libertés civiles. Aujourd'hui, c'est à ton expertise dans ce domaine que nous faisons appel pour revenir aux fondamentaux des droits de l'homme après les atrocités commises le 7 octobre 2023, jour de Shabbat et de Simchat Torah, des atrocités commises par des commandos de la mort venus de Gaza, comparables et pires à certains égards que la Shoah par balle perpétrée en Europe. Avant de commencer à te poser les questions, j'aimerais préciser que le Hamas a encadré la prise en otage de plus de 220 personnes détenues aujourd'hui à Gaza. Parmi eux, les otages dont les portraits ont accompagné le rassemblement d'élus du Bas-Rhin, place de la République, mercredi 1er novembre à Strasbourg. Abigail Idan, 3 ans. Kfir Bibas, 9 mois. Yuva Broduch, 8 ans. Ella El-Kaïm, 8 ans et demi. Eretz Calderon, 12 ans. Sa grande sœur, Sahar, 16 ans. Liri Albag, 18 ans. Itai Regev, 18 ans. Mia Lemberg, 17 ans. Noam Or, 17 ans. Noam Avigdori, 12 ans. Alma Or, 13 ans. Yuval Engel, 11 ans. Etan Yalomi, 12 ans. Almogtal Goldstein, 9 ans. Asher Ratzkatz, 4 ans. Joy, pour commencer, peux-tu nous dire d'où est venu ton intérêt pour ce domaine du droit plutôt qu'un autre et qui sont tes maîtres en la matière?
Alors, pour commencer par la deuxième question, j'ai fait le DOSS Droit de l'homme et droit humanitaire à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Mes maîtres, c'était pour le droit humanitaire Mario Bettati, qui est l'expert reconnu dans ce domaine. C'était également le jurisconsulte de Bernard Kouchner lorsqu'il était à la tête de la délégation de l'OTAN au Kosovo. Pour les droits de l'homme, mon professeur, c'était le professeur émérite de l'Université de Strasbourg, Cohen Jonathan, et qui était également l'élève de René Cassin. Pour ce qui concerne la première question, mon intérêt est venu de l'histoire familiale. Ma propre famille a enfui l'Allemagne nazie. Les droits de l'homme et l'ONU ont été créés en réponse aux atrocités commises pendant la Shoah. Ensuite, pendant ma vie étudiante, j'ai eu également un intérêt pour d'autres génocides, comme les atrocités commises en Bosnie, au Rwanda, etc.
Dans les médias, on entend parler indifféremment de trois expressions. On entend les termes « droit de l'homme », « droit humanitaire » et plus récemment, on parle de « droits humains ». S'agit-il d'expressions synonymes? Peux-tu nous aider à y voir plus clair?
Oui, alors « droits humains », c'est du langage courant, mais récemment, ça a été invoqué pour remplacer « droit de l'homme » dans un but d'être plus égalitaire, en incluant aussi bien les hommes que les femmes. La distinction majeure en droit international est faite entre les droits de l'homme d'un côté et le droit international humanitaire de l'autre. Les droits de l'homme s'appliquent, pour faire court, en temps de paix, et le droit international humanitaire remplace ce qu'on appelait autrefois le droit de la guerre. Mais on verra que les droits de l'homme peuvent, dans certains cas, s'appliquer aussi en temps de guerre. Le droit international humanitaire, c'est l'ensemble des règles de droit international visant la protection lors d'un conflit armé des personnes atteintes par les conséquences de ce conflit. Il traite de la conduite des hostilités, ce qu'on appelle le jus in bello, et des motifs ou de la légalité d'un recours à la force, le jus ad bellum. Tout cela est encadré par la Charte des Nations Unies. Le droit international humanitaire repose sur un équilibre entre la reconnaissance de la nécessité militaire d'un côté et les légitimes préoccupations d'humanité de l'autre. Donc, le droit international humanitaire reconnaît le droit de tuer, de blesser et de causer des destructions à l'ennemi. Mais il faut faire attention, la nécessité militaire s'interprète comme permettant aux partie au conflit, de recourir dans le respect des autres règles du droit international humanitaire aux seuls moyens nécessaires pour atteindre des objectifs militaires définis. Et donc, à cette fin, nous avons les quatre conventions de Genève de 1949. Donc, les quatre traitent des questions. Première convention concernant les blessés et les malades. La deuxième par des naufragés, la troisième des prisonniers de guerre et la quatrième protège les combattants qui sont mis au combat.
D'après le droit international, quel serait le statut des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023 ? S'agit-il, comme on peut l'avoir malheureusement entendu, de légitime défense ? Et comme l'affirment certains soutiens du Hamas, ou d'un crime de guerre, ou bien encore d'un crime contre l'humanité. Quelle serait la qualification juridique ?
Alors, tant qu'il n'y aura pas eu de procès, il n'y a pas de statut encore pour ces crimes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Cour pénale internationale définit quatre crimes. Et il y a également la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Alors, s'agissant de génocide, prévoit l'article 2 de la Convention, meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe. Si on analyse les faits du 7 novembre, on peut dire que le Hamas avait l'intention de commettre un meurtre et qui a commis effectivement entre 1300 et 1400 meurtres, a commis des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe et aussi a pris des otages, donc a commis un transfert forcé des populations, y compris des enfants.
L'Union européenne a classé le Hamas de longue date parmi les organisations terroristes. Quelle est au juste la définition d'un groupe terroriste et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent ?
Alors, l'ONU n'ayant pas adopté formellement une définition du terrorisme, on prend la définition de consensus académique définie par l'expert en terrorisme, M. Schmitt. Alors, il dit que le terrorisme est une méthode d'action violente répétée, inspirant l'anxiété, employée par des acteurs clandestins individuels en groupe ou étatique, semi-clandestins, pour des raisons idiosyncratiques, criminelles ou politiques, selon laquelle, par opposition à l'assassinat, les cibles directes de la violence ne sont pas des cibles principales. Les victimes humaines immédiates de la violence sont choisis au hasard dans une population cible et servent de générateurs de messages. Les processus de communication basés sur la violence ou la menace entre les organisations terroristes et des victimes et les cibles principales sont utilisés pour manipuler le public cible principale en faisant une cible de la terreur, une cible d'exigence ou une cible d'attention selon que l'intimidation, la coercition ou la propagande est le premier but.
Donc c'est le choix de la cible qui fera la différence entre ce qui ressort du terrorisme et ce qui ne ressort pas du terrorisme.
Exactement. Une action militaire légitime. On vise le public et D'accord. on fait part de propagande.
Quand on parle de la riposte militaire israélienne, on insiste sur le fait qu'elle devrait être proportionnelle, comme en matière de défense légitime, de légitime défense, sur le plan individuel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a subi 70 000 morts civiles, les Allemands 2 millions, soit 30 fois plus de morts allemands que de morts anglais. Le Royaume-Uni a-t-il commis un génocide contre les Allemands ? En droit international, que veut-on dire par riposte proportionnelle ? Cela voudrait-il dire qu'il faudrait que le nombre de victimes soit égal de part et d'autre ?
Alors, en ce qui concerne la proportionnalité, je me permettrai de citer un professeur qui est également avocat anglais, professeur au King's College et chercheur invité à l'Université de Harvard. Il s'agit de Lord Verdiram, et il dit la chose suivante. Le critère de proportionnalité dans la légitime défense ne signifie pas que la force défensive doit être égale à la force utilisée dans l'attaque armée. La proportionnalité signifie qu'il est possible d'utiliser une force proportionnelle à l'objectif défensif qui est d'arrêter, de repousser et d'empêcher de nouvelles attaques. Israël a décrit ses objectifs de guerre comme étant la destruction des capacités du Hamas. Donc, il continue. D'un point de vue juridique, les objectifs de guerre d'Israël sont conformes à la proportionnalité dans le droit de la légitime défense, compte tenu de ce que le Hamas dit faire et de ce que le Hamas a fait et continue de faire. Demander à un État qui agit en légitime défense d'accepter un cessez-le-feu avant que ses objectifs défensifs légitimes n'aient été atteints, revient en fait à lui demander de cesser de se défendre. Donc je ferme les guillemets, ce sont les paroles de Lord Verdiram. Ensuite, d'où viennent ces affirmations? Ça vient du premier protocole des conventions de Genève qui fournit une définition et d'exemples de biens civils qui sont présumés être ou pas des objectifs militaires. Ensuite, de l'article 52, alinéa 2 du premier protocole, qui donne une définition des objectifs militaires et qui dit que l'objet doit contribuer effectivement à l'action militaire de l'ennemi, ce qui est illustré par la nature, l'emplacement, la destination ou l'utilisation de l'objet. Et qui précise que les objets de nature militaire ne sont pas les seuls à être des objectifs militaires. Deuxièmement, sa destruction, sa capture ou sa neutralisation doit offrir un avantage militaire certain à l'autre partie.
Donc si je comprends bien, la proportionnalité est en réalité complètement découplée du nombre de victimes collatérales.
Tout à fait. Ça dépend si c'est une réponse à un but militaire légitime.
Entendu. Un des terroristes assassins a fièrement appelé ses parents, qui l'ont félicité d'avoir tué 10 juifs habitant un kibboutz. Et dans le même temps, il semble qu'un consensus se dégage pour opérer une distinction entre le Hamas d'une part et la population de Gaza. Les images montrent que des civils gazaouis sont entrés avec les terroristes pour participer et piller les biens des victimes. Donc j'ai vu des jeunes avec leur téléphone portable, certains arrivant même à vélo dans le kibboutz martyr. J'ai même vu un vieil homme à béquilles entrer dans le kibboutz. L'armée israélienne est quant à elle une armée populaire comme en Turquie ou en Suisse. Le droit international indique-t-il donc des critères objectifs pour opérer cette distinction parfois difficile entre combattants et civils ?
Oui. Alors, selon le principe du droit international humanitaire, les parties en conflit armé doivent faire la distinction entre la population civile et les combattants, d'un côté, et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires de l'autre. Il est essentiel de définir qui et quoi peut être attaqué. Alors, la première règle concernant les attaques et la cible visée doit être un objectif militaire. Et la deuxième règle, c'est que même lors de l'attaque d'une cible légale, des mesures de précaution doivent être prises pour épargner les civils. Alors, bien que l'objectif principal soit de protéger les personnes, il convient d'examiner d'abord quels objets peuvent être attaqués.
À chaque fois que le conflit se ravive, ressurgit également l'accusation selon laquelle Israël commettrait un génocide. Et d'un autre côté, on entend parler à propos de la guerre de 1948 ou des atrocités commises le 7 octobre de guerre ou d'actes génocidaires. Comment le droit international définit-il ce concept de génocide et, question subsidiaire, établit-il un lien entre le nombre de victimes et le crime de génocide?
Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité les statuts de la Cour pénale internationale, donc l'article 6, et également la définition de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce qui est puni, c'est l'émeute d'un membre d'un groupe ou l'intention de commettre un meurtre des membres d'un groupe. Dès lors qu'on met en action ce meurtre, même si on ne tue qu'une seule personne, on peut constituer le crime de génocide. Or, dans le cas présent, on a effectivement tué 1400 personnes, donc on a accompli ce crime.
En réponse à la menace ou à la commission d'un crime à l'encontre de sa population, le droit international autorise-t-il un État à, par exemple, imposer un blocus, déclencher une opération militaire ponctuelle, voire à déclarer la guerre?
Oui, tout à fait. Le chapitre 2 de la Charte de l'ONU autorise le recours à la force en tant que, après une infraction à l'intégrité territoriale, ce qui est le cas ici. Il y a aussi le document final du Sommet mondial de 2005 pour la prévention du génocide, où les chefs d'État de gouvernement ont affirmé leur responsabilité de protéger leur propre population du génocide, des crimes de guerre, des nettoyages ethniques et des crimes contre l'humanité. Et ils ont même accepté une responsabilité collective d'empêcher ce genre de crimes.
Donc ça veut dire qu'ils ont accepté l'idée que lorsqu'un crime, un de ces crimes est établi ou est en cours de commission, ils doivent eux-mêmes aller jusqu'à envoyer des forces militaires?
Exactement. Donc, depuis 2005, non seulement Israël a l'obligation de réprimer ce crime, il y a un argument qui consiste à dire que les États du monde devraient venir aussi à la secousse, aussi bien d'Israël que des populations civiles à Gaza victimes du Hamas.
J'ai compris. Alors, justement, Israël a demandé, par rapport à la population gazaoui, lui a demandé d'évacuer le nord par voie d'information aérienne, donc même parfois en téléphonant sur les téléphones, ce qui n'est pas le cas pour cette opération puisque les voies de communication ont été coupées, donc c'est par flyers. Dans quelle mesure la demande de Tsahal d'évacuer le nord de la bande de Gaza est-elle en conformité avec le droit international?
Alors, le transfert de population est interdit, sauf s'il s'agit d'assurer la sécurité des populations civiles et de leur éviter de se trouver dans une zone de guerre. Donc, selon les règles de la Croix-Rouge internationale, dans le volume 1, règle 129, et aussi selon l'article 17 du protocole additionnel des conventions de Genève, l'exception à l'interdiction de déplacement des populations et pour les évacuer d'une zone de guerre. Donc, c'est clair. Alors, l'interdiction des transferts forcés prévus par le droit international humanitaire s'applique uniquement aux transferts effectués pour des raisons liées au conflit. Dans certaines situations, le déplacement temporaire de la population civile dans les zones de conflit armé est nécessaire. Donc, le droit humanitaire prévoit deux exceptions, si la sécurité de la population civile est menacée par les hostilités et pour des raisons militaires impératives.
Qu'en est-il des réfugiés ukrainiens qui ont dû évacuer les zones de combat?
c'est une situation comparable. Si on les a invités à évacuer pour leur protection, ça ne constitue pas un déplacement forcé de population.
Qu'est-ce qu'on veut dire par corridor humanitaire ? Est-ce que ça a une définition juridique ou c'est une pratique, géopolitique, stratégique ?
Non. Alors, les textes prévoient l'acheminement d'aide humanitaire vers les victimes civiles, enfin les populations civiles dans un conflit armé, le blocus et le siège étant autorisés. Mais il y a l'obligation de l'armée opposant de faire en sorte que des civils puissent avoir accès à des vivres, c'est-à-dire eau et nourriture. Il n'y a pas d'obligation de fournir, par exemple, le fuel.
D'accord, donc on fait la différence entre des produits de première nécessité nécessaires à la survie,
oui,
et ce qui serait de l'ordre quoi, de la communication et de l'énergie.
Exactement.
Alors, ça, c'est pour la situation à Gaza, mais dans le même temps, plusieurs fronts sont susceptibles de s'ouvrir. Des cellules du Hamas sont actives dans les territoires placés sous la responsabilité de l'autorité palestinienne. D'ores et déjà, des opérations militaires préventives y sont menées. J'en viens donc naturellement à la question du statut juridique des territoires à l'ouest du Jourdain, donc la Cisjordanie, annexée par la Jordanie en 1948, puis conquis par Israël lors de la guerre de juin 1967. Contrairement à Gaza, l'autorité là-bas est partagée entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne, donc c'est autorité conjointe, en fonction des territoires A, B ou C. Le consensus dans les milieux politiques, diplomatiques et les médias est néanmoins d'en parler comme de territoires occupés. S'agit-il d'un terme polémique ? Y a-t-il débat parmi les juristes ? Et en quoi est-ce lié à la Convention de Genève, souvent citée en association avec ce terme?
Alors, l'article 2 de la Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles, stipule que la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, à condition que cette haute partie contractante ait ratifié la convention ou en accepte et en applique les dispositions. Donc
la question c'est
qui sont les hautes parties contractantes.
Si j'analyse juridiquement la situation du conflit à Gaza, évidemment le Hamas n'est pas une haute partie contractante. Il se trouve que Israël non plus n'a pas ratifié la Convention de Genève, bien qu'elle en ait accepté certaines dispositions d'elle-même, mais sans l'avoir ratifiée. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant on ne peut pas appliquer les conventions de Genève à ce type de conflit ?
Alors, ça dépend. Parce que les conventions de Genève comprennent la protection des droits de l'homme, par exemple, qui s'applique à tous, c'est-à-dire à toute l'humanité, qu'ils aient ratifié des conventions ou pas. D'ailleurs, la Cour pénale internationale, en examinant les allégations de la guerre de 2014 entre Israël et Hamas, justement, a statué qu'elle était compétente, malgré le fait que ni le Hamas ni Israël soient signataires à la Convention de Rome. Donc, pourquoi elle s'estime compétente ? Parce qu'en droit international, il y a le principe de jus cogens. Le jus cogens, ça veut dire que c'est un droit et que, notamment, ça a été développé depuis le tribunal de Nuremberg, qu'il y a des atrocités tellement affreuses, et que c'est des atteintes à la dignité humaine. C'est un droit qui est au-delà des lois. Donc, on sait très bien qu'en Allemagne, c'est illégal de tuer des Juifs ou de discriminer des Juifs. Mmh. Or, le jus cogens vient de dire, mais il y a un droit supérieur au droit étatique. C'est un droit humain, universel, et qui s'applique à tous, qu'ils soient signataires des traités ou pas. Par exemple, l'Arabie saoudite n'ayant pas ratifié les conventions relatives à la protection des droits de femmes, ça ne veut pas dire que les femmes en Arabie saoudite, d'après le droit international, n'aient pas le droit.
C'est ça.
Elles ont des droits, même si leur État ne les applique pas.
Pour les juristes qui estiment que la 4e Convention de Genève pourrait concerner la situation de ces territoires, s'agissant de l'article 49 de la 4e Convention de Genève, j'ai lu que le juriste Julius Stone estimait la chose suivante, je le cite, « L'ironie serait poussée jusqu'à l'absurde, en prétendant que l'article 49.6, conçu pour empêcher la répétition des politiques génocidaires de type nazi, consistant à rendre les territoires métropolitains nazis Judenrein, en est venu à signifier que la Cisjordanie doit être rendue Judenrein et doit être maintenant ainsi, si nécessaire, par l'usage de la force par le gouvernement d'Israël lui-même, à l'encontre de ses propres habitants. Le bon sens ainsi qu'un contexte historique et fonctionnel correct exclut une lecture aussi tyrannique de l'article 49.6.
Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai juste que la question de savoir si les territoires de Judée-Samarie sont occupés ou pas, Israël les appelle territoires disputés plutôt qu'occupés, et la légalité ou pas de cette occupation est examinée par la Cour suprême israélienne, et on peut lire à cet effet « The Levy Commission Report », qui est très complet et qui traite vraiment de la légalité de ces territoires.
Alors, la Cour suprême d'Israël elle-même a jugé que ces territoires constituent une possession, je cite, « possession belligérante ». Donc, oui. Elle exclut le terme également de « occuper » ou de « disputer ». Elle a choisi encore un troisième terme.
Oui, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu d'État indépendant palestinien. Mmh. Il y avait une succession d'occupations jusqu'à la prise de contrôle de l'armée israélienne en 67. Mais depuis les accords d'Oslo, le territoire est divisé en trois zones. Alors, vous avez zone A, B, C. Zone A, sous contrôle de l'autorité palestinienne. Zone B, sous contrôle conjointe de l'armée israélienne et des territoires, et les zones C sous contrôle israélienne.
Alors très rapidement pour conclure, on répète à l'envi qu'Israël ne respecterait pas le droit international. D'où vient d'après toi cette accusation qui vise de facto à placer Israël au banc des nations?
Alors, ça vient du fait que l'ONU est composée par deux tiers des pays dans ce qu'on appelle le bloc pro-arabe. Donc, il y a une série de résolutions de l'Assemblée générale qui vont à l'encontre d'Israël. Il faut savoir que les résolutions de l'Assemblée générale n'ont aucune force obligatoire en droit international. Seules les résolutions du Conseil de sécurité comptent. Et il y a eu beaucoup moins en l'encontre. Il y en a eu. Mais Israël a toujours été, à mon sens, en conformité avec ces résolutions.
Très bien. Merci Joy pour toutes ces précisions d'ordre juridique. Demain, tu rencontres l'ambassadrice américaine Deborah Lipstadt, déléguée spéciale pour la lutte contre l'antisémitisme.
Oui, c'est exact. Je vous en dirai plus la prochaine fois.
La semaine prochaine, nous recevrons deux membres d'un collectif d'avocats strasbourgeois qui lutte également contre l'antisémitisme. Bonne semaine à tous.
Au pays des droits de l'homme, il n'y a pas d'égalité.